Je crois qu'on avait quand même une petite question pour Mirova qui n'a pas été abordée. Qui était vraiment, ça a été Fabien dit assez rapidement, les structures qui sont financées, est-ce qu'elles relèvent exclusivement de l'ESS? Est-ce qu'elles peuvent avoir également la belle ESUS? Enfin, comment ça se passe? Qui sont un peu les acteurs majoritairement représentés
Alors, la question est bonne. Dans notre fonds, on a deux fonds. Donc, celui que je gère, c'est obligatoirement ESUS. Donc, on est dans l'ESS par statut et c'est lié au règlement de ce fonds. Dans le fonds dont on a parlé, qui finance Habitat et Humanisme massivement, Mirova Solidaire, pour le coup, il est à 70% de ses actifs en ESUS, donc du vrai solidaire au sens statutaire. Et on peut aller à la marge, donc c'est aujourd'hui 15% du fonds, sur des projets qui ne sont pas labellisés ESUS, mais dont on considère qu'ils sont dans l'esprit du solidaire. Et là, qu'est-ce que c'est qu'être dans l'esprit du solidaire? Ça va être des structures qui dont les produits ou les services vont dans la bonne direction et sans être dans ces critères juridiques et statutaires très, très serrés, eh bien on les finance quand même. Ça va être des plus petites structures. Par exemple, pour vous donner un exemple, on finance un fabricant de yaourts bio en région Île-de-France en circuit court. Bon, il ne peut pas rentrer dans le label ESUS, ce n'est pas possible pour lui. Mais il n'empêche qu'on est dans ce qu'on veut financer et ce qu'on voudrait avoir dans notre frigo quand on habite en Île-de-France plutôt que d'avoir des gros machins industriels. Donc, on considère que, et c'est bien la liberté de Mirova de faire ça, et le règlement de notre fonds nous autorise à faire ça, d'aller à la marge dans des activités qui ne sont pas l'ESS pur sucre. Mais c'est aussi intéressant pour nous parce que ça ouvre la chose et on peut aussi peut-être au fil du temps attirer vers ce truc un peu à la marge des sociétés qui vont dans le bon sens. Et là-dessus, nous, on s'appuie sur une équipe, je ne l'ai pas dit, mais Mirova a 10 analystes extra-financiers. C'est la plus grosse équipe en Europe, hein. Alors, ils vont regarder des choses cotées, mais aussi des choses non cotées et ils nous aident typiquement à savoir si ces structures sont bien en ligne avec un fonds solidaire. On a le droit de faire ça, hein, par rapport au label FinanSol. Et ça ne vient pas contre les structures historiques de l'ESS, ça vient en complément. Et juste un petit mot, parce que évidemment, Marie a raison sur l'incongruité de nos demandes, enfin, nous parmi d'autres, peut-être il y a quelques années. Moi, si je me place en tant que gérant, évidemment, la meilleure mesure d'impact, c'est celle que fait l'acteur. Le problème, c'est s'il n'y en a pas du tout, on peut tomber dans un truc compliqué. C'est-à-dire, s'il n'y en a pas et qu'on demande quelque chose, on tombe à côté de la plaque. Quasiment à coup sûr, c'est pas notre métier non plus. Par contre, la meilleure, c'est celle que vous faites. Et après, je pense que le souci se place au niveau d'après, c'est que si tout ce que fait Habitat Humanisme est très intéressant, nous, ça nous remonte. Et évidemment, quand je dois expliquer pourquoi Habitat Humanisme est dans nos fonds, j'utilise la mesure d'impact d'Habitat Humanisme, je ne vais pas la refaire quand même. Par contre, si on doit l'additionner avec nous, on a cinq ou six foncières qui ne sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent un petit peu, il y a toujours je vais dire un couillon, mais quelqu'un qui va dire, non, mais attends, fais-moi un truc consolidé. Et là, ça devient compliqué. Donc, c'est quand même un appel à ce que chaque structure mette en avant sa propre mesure d'impact. Après, c'est à nous d'être à peu près intelligents. Mais le problème, c'est si on n'a pas du tout, évidemment, vous allez avoir des questionnaires qui tombent à côté de la plaque. Donc voilà, je pense que tout le monde a intérêt à bien comprendre ce qu'il fait et être capable de l'expliquer simplement après. Voilà.
Merci Fabien. On est à 3 minutes de la fin. Isabelle avait prévu un petit temps de conclusion. Je ne sais pas s'il y a
Il n'y a
des
pas d'autres
dernières questions ou
questions.
des réactions.
Jette un œil là sur la liste des participants. On remercie bien sûr l'ensemble des personnes qui sont restées jusqu'au bout de ces 2 heures hein, qui ont été donc passionnantes en tout cas. Je pense qu'on a pu, à travers ces différents témoignages qui se croisaient quand même assez fortement, envisager des pratiques qui sont effectivement des pratiques concrètes, effectives, et qui permettent, je l'espère en tout cas pour vous, de mieux comprendre comprendre le rôle, mais aussi les effets hein, des outils sur les organisations, le fait d'avoir pris ce prisme de l'appropriation nous permet quand même de mesurer déjà intuitivement un certain nombre d'impacts. Bien sûr, de ces outils sur les organisations. Alors, Marie l'a quand même largement souligné, l'expérience le démontre bien, les outils peuvent aussi avoir un impact d'acquisition de compétences d'évaluation et ce n'est pas négligeable non plus, compte tenu du contexte qu'on a rappelé et d'un certain nombre d'exigences. Alors juste, moi, je voudrais conclure peut-être avec trois points clés qui me semblent quand même assez présents au fur et à mesure de vos présentations et qui rejoignent bien évidemment hein, des travaux ou des enquêtes qui ont déjà été faites sur le sujet. Alors, la première quand même, et c'est pour raisonner sur mon propos introductif et l'amoindrir un petit peu, le côté scientifique justement que Fabien relativisait un petit peu, bah, on s'est bien rendu compte quand même que pour les organisations de l'ESS, quand on met en place ce type de démarche, il faut admettre de l'incertitude, il faut admettre de la subjectivité, il faut admettre à être prêt plutôt à conserver une très forte contextualisation de ce qu'on fait et de ce qu'on évalue, de ce qu'on mesure. Et donc, je pense que vous avez tous bien perçu l'intérêt et l'apport des démarches quali qui restent encore les plus justes hein, pour mesurer la qualité du travail qui est mené dans ces organisations et des bénéfices qu'elles génèrent. Le deuxième point, il a été largement souligné à plusieurs reprises, c'est effectivement qu'il faut rester quand même assez prudent avec l'agrégation des résultats entre indicateurs de différentes structures, entre secteurs différents, et qu'on aura bien sûr tendance à privilégier, en tout cas les acteurs étaient bien d'accord là-dessus, des mesures ad hoc, et que l'impact, il reste singulier et il est généré par des facteurs de contexte et des acteurs qui sont uniques. Puis enfin, je conclurai là-dessus, c'est que tous ont quand même largement revendiqué des évaluations qui renforcent les motivations internes, mais aussi externes avec les partenaires. Et que finalement, il faut laisser une certaine efficacité, une liberté aux organisations qui sont évaluées et moins les assujettir sans doute à des normes externes. En tout cas, les exemples qui nous ont été présentés montrent qu'en l'absence d'outils contraignants, eh bien, on a une appropriation de ces mêmes outils qui se fait davantage en profondeur et une démarche qui se construit bien sûr en commun et qui crée à la fois de la réflexivité, mais aussi davantage de coopération. Je crois que c'est quand même des points qui sont largement ressortis. Donc, dernier petit conseil, finalement, engagez-vous, pourquoi pas. Sachez que les facteurs qui motivent la démarche maintenant, ils sont variés, ils sont autant internes qu'externes. Et puis, que ces démarches, elles se combinent sur des outils, des méthodes différentes et variées et qu'il faut être amené à justement être ouvert là-dessus et pas s'attendre à appliquer un modèle clé en main et une méthode totalement préconstruite. Donc, des pistes qui restent encore largement à discuter, à explorer. En tout cas, pour notre volet sur l'impact social, nous nous arrêterons là ce soir. Et je conclurai juste en donnant rendez-vous à l'ensemble des participants, s'ils le souhaitent, au prochain volet des mardis de l'ESS. Alors, il sera programmé le 5 janvier de l'année prochaine. Et il traitera donc d'une question sur les organisations de l'ESS, pardon, au temps du Covid, comme opératrice de solidarité. Voilà. Donc, je remercie une dernière fois nos grands témoins ainsi que tous les participants pour votre forte mobilisation ce soir. Oel, un dernier mot ?